Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Sortie de zone en ce lundi 17 février, 37e épisode de la balado conjointe de La Presse et du 98.5. Ici Mario Langlois en compagnie d'Alexandre Pratte. Bonjour Alexandre.
Salut.
Jérémy Rainville.
Salut Mario.
Salut Jérémy. Et Philippe Quentin. Salut Philippe.
Salut tout le monde.
Les gars, quatre défaites consécutives du Canadien, quelques points grappillés par des défaites en prolongation. J'ai envie de vous demander tout de suite d'entrée de jeu, qui a envie de commencer? Go! Hein? Non, je suis convaincu que vous avez plein de sujets en tête. On va y aller avec les dernières nouvelles. Avant même de se pencher sur la défaite de samedi, Shea Weber, un retour au jeu imminent, va jouer en dépit d'une blessure, pourrait même être en uniforme dès le match de demain. Il y a quelques jours, le Canadien nous indiquait que c'était une absence de 4 à 6 semaines. Comment vous vous y retrouvez là-dedans? Est-ce que l'annonce du Canadien, c'était comme un doigt d'honneur aux médias?
Oh, je penserais pas. Je pense pas qu'on puisse jouer avec la santé d'un joueur pour se moquer un peu des médias, ou en ce cas-ci, probablement plus de Nick Kyprios, là, qui avait dit que même la carrière de Shea Weber était potentiellement en péril. Mais ce que j'espère pour le Canadien, c'est qu'on précipite pas ça inutilement, parce qu'on dit, bon, il y a encore une mince chance d'accéder aux séries éliminatoires. Et là, qu'on court le risque d'aggraver cette blessure. Pour moi, Weber, dans les circonstances où le Canadien, là, on le sait, est à toute fin utile éliminé, ça prendrait une fiche de quoi? Mm-hmm. 17 victoires, 4 revers et des grenailles là, pour accéder aux séries, ça n'arrivera pas. J'espère qu'on pèse pas sur l'accélérateur de façon inutile pour qu'il revienne au jeu, puis que là, tout à coup, whoop, il reçoit un lancer sur le pied, sur la cheville, puis là, il est blessé encore plus long terme.
Ça, mais il a réagi aujourd'hui chez Weber. Il a dit, les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas aggraver ma blessure. Donc, voilà la situation pour Shea Weber. On dit qu'il n'y a pas de problème dans son cas, mais c'est étrange comme situation. Mario, tu l'as mentionné, on annonçait 4 à 6 semaines. Il revient. Sincèrement, je pense qu'il faut regarder du côté de Shea Weber. C'est lui qui doit avoir dit « je veux revenir ». Parce que sinon, comme Philippe l'a mentionné, ce club-là, cette semaine, nous a prouvé qu'ils vont un peu nulle part. A perdu 2 fois des avances, 2-0 contre l'Arizona, 3-0 contre les Stars de Dallas. Connaît des difficultés, donc ça sert à rien de ramener ce gars-là pour absolument rien. À moins que lui...
Ça rappelle son début de saison l'an passé. Exact, Jérémy, il a joué sur un pied cassé ou en dépit d'un pied cassé pendant un bout de temps jusqu'à temps de se résoudre, de se résigner à subir une
chirurgie. À moins que lui décide de dire à tout le monde, écoutez-moi, là, moi j'embarque. Fait que là, ils disent, ben non, embarque pas. Non, j'embarque, je veux embarquer. Dans mon patin, je vais être correct, j'embarque. Là-dedans, t'as pas grand-chose à faire à part dire « bon, ben bonne chance, Shea, puis merci de nous aider ». C'est tout ce que tu peux dire.
Je suis convaincu que t'as raison là-dessus. Moi aussi, je pense que c'est la décision de Shea Weber. J'ai jamais vu, en fait, une équipe sportive dire « notre joueur va rater 4 semaines, 6 semaines, le faire revenir après 5 jours pour lui mettre de la pression ». Peut-être dans les années 90, des joueurs se faisaient shooter à je sais pas de quoi. Là. C'est peut-être arrivé, mais récemment, non. Moi aussi, je pense que ça vient de lui, s'il joue. Maintenant, est-ce que le Canadien fait comme « ah non, Shea, prends soin de toi », je suis pas certain non plus, parce que ça fait un petit peu l'affaire du Canadien que Shea Weber, en tout cas, soit dans l'entourage de l'équipe, patine, parce que on approche la date limite des échanges et le Canadien peut pas, je pense, se présenter en se disant oh, écoutez, on a comme un trou gros comme un océan. Je veux dire,
ça les rend moins vulnérables selon toi?
Oui, parce que en fait, sinon tout le monde sait que le Canadien va chercher un défenseur droit pour le long terme aussi. Là, ce que le Canadien est en train d'envoyer comme message à la Ligue, en tout cas, ce que Weber permet aux Canadiens de faire, c'est de dire écoutez, on est correct. Là. Nous, on n'a pas de besoin à court terme. Il n'y a pas de panique en la demeure chez nous.
Non, mais je vous rappelle que Brendan Gallagher aussi se sentait assez bien pour revenir au jeu après sa commotion cérébrale. On connaît la suite.
Exact.
Puis Jonathan Drouin se sentait... Ben là, on ne sait pas, lui, il se sentait assez bien, c'était pas clair, mais lui aussi, c'est difficile. Non, mais, là,
dans le passé, Paul Byron aussi est revenu plutôt... Il y en a eu là, beaucoup des joueurs qui sont revenus.
Et Jonathan Drouin avait moins mal à la cheville un matin quand il a vu Weber embarquer, par exemple. Non,
je sais pas ce que tu as à ça.
Non, mais écoutez, peut-être que j'arrive avec un peu de mauvaise foi en ce début de semaine. Je vais même clarifier ma question d'entrée de jeu qui n'a pas trouvé preneur tellement par rapport au fait que est-ce que c'est un doigt d'honneur du Canadien? Je leur prête pas de mauvaise intention, mais comme on a une petite idée comment ça se passe à l'intérieur, puis que, tu sais, quand on parle du bruit extérieur, il y avait beaucoup de bruit autour de la nature de la blessure, de la longueur de la blessure. Philippe, tu penses t'as dénoncé ça? Puis il y en a plusieurs qui l'ont dénoncé. Comment ça se fait que c'est pas plus clair que ça?
Tu sais que Kiprios s'est excusé aujourd'hui.
Kiprios s'est excusé.
Oui, il s'est excusé. Il dit « Je m'excuse pour la pression que ça a mis sur Shea, sur sa famille. Je maintiens mon point, mais je comprends que c'était peut-être pas les mots les mieux choisis pour
Qu'est-ce qu'il avait dit pour les gens qui n'ont pas eu connaissance?
Il avait dit que c'était plus sérieux que prévu du côté de Shea Weber et que ça pouvait même potentiellement mettre fin à sa carrière. Donc, il a dit « Je m'excuse sincèrement pour les mots utilisés. »
Alors, Alors, compte tenu de tout ça, c'est pour ça que j'ai envoyé la discussion dans ce sens-là. Est-ce que c'est le Canadien qui disait, hey, vous autres, là, vous avez besoin d'une information pour vous la fermer puis nous laisser tranquille, nous laisser gérer ce cas-là comme on pense qu'on... Les autres, ils pensent qu'ils gèrent bien de l'intérieur. Ils nous donnent ça au compte-gouttes. Ils disent 4 à 6 semaines. Puis, le gars, il revient au jeu 4 jours après. Fait que c'est pour ça que je me suis demandé... Est-ce un droit d'honneur? Peut-être que c'est pas une question légitime.
Moi, je pense pas, mais tu sais, il faut pas oublier une chose. Là. C'est le Canadien lui-même, par la voix de son président, Jeff Molson, qui, après les blessures à Carey Price il y a 2 ans, vous savez, ces fameuses blessures là, sur lesquelles on a tant ergoté, puis il y a toutes sortes de rumeurs qui allaient, ça allait dans toutes les directions. À la fin de cette saison-là, Jeff Molson a dit, dans le bilan de fin de saison, sur la tribune, à Brossard, flanqué de Marc Bergevin, il faut qu'on soit plus transparent à l'heure actuelle, il faut qu'on gère mieux que ça, ces situations comme celle-là. Quand le cas de Price, il a donné ça comme exemple, s'est servi de l'exemple des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui avaient eu une information plate pour l'organisation avec laquelle ils avaient dû composer pendant la saison. Les Patriots étaient sortis, un communiqué, ils avaient remis de l'ordre dans la baraque, ils avaient donné leur vérité, puis ça avait contribué effectivement à baisser un peu la température dans la pièce. Et là, le Canadien, théoriquement, c'est ça la nouvelle position de l'organisation. Arrive, on va donner l'heure juste aux gens. Mais là, Weber est blessé, donne pas l'heure juste. En tout cas, il reste...
Honnêtement, peut-être qu'il n'y avait pas l'information. Ben là,
alors, on le dit. Honnêtement, ils n'ont pas dit grand-chose. Comment ça se fait, Jérémy, que c'est les médias qui apprennent qu'il est à Wisconsin? Le Canadien n'est pas capable de dire ça. Il doit aller rencontrer un spécialiste. Pourquoi le Canadien n'est pas capable de faire ça?
Les médias de Toronto.
Oui, les médias de Toronto.
Ça faisait que ça s'est écoulé par quelqu'un à l'extérieur.
Parce que pour le Canadien qui a rencontré un médecin au Wisconsin, ça semble être un secret d'État. Il faut pas dire ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, ils se plaignent que dans les médias, ça aide dans toutes sortes de directions. Donnez donc l'heure juste en partant. S'il avait dit, écoutez, on ne sait pas exactement ce qui arrive. Il a consulté les médecins du Canadien. Ils sont d'un certain avis, mais il va aller vérifier avec le médecin qui l'a opéré il y a 2 ans. Puis on va vous donner les nouvelles quand il l'aura rencontré. Qu'est-ce que ça aurait donné de faire
décidé,
ça?
Si eux, ils avaient décidé, puis c'était peut-être la stratégie, on va attendre l'expertise finale du gars du Wisconsin et par la suite, on va émettre une opinion là-dessus. Mais admettons, je ne dis pas que c'est une bonne stratégie, mais admettons, eux ont décidé de faire ça. En quelque part, j'avoue que ça laisse un peu sur la fin de tout le monde le temps qu'on ait la bonne information. Ouais. Mais en quelque part, la bonne information, c'est avoué à ne pas être la bonne information d'une façon ou d'une autre parce que chez Weber, revient.
Non, mais c'est pour ça que je me questionne
sur ce qu'ils nous ont donné comme info 4 à 6 semaines. C'est pour ça que je soulevais un petit peu, mais pas que c'est bien grave.
Moi, je pense
mais...
que c'est vraiment, je reviens, là, je pense que chez Weber, c'est lui qui mélange tout le monde aujourd'hui. Là. C'est lui qui change la donne complètement.
Ça se peut pas. Moi, honnêtement, ça se peut pas que ce soit le Canadien qui le force à revenir au jeu après 4 jours. Ça,
je crois pas du tout.
Ça se peut pas que le Canadien avait aucune idée il y a 4 jours que ça se pouvait que chez Weber vienne au jeu non plus.
Non, mais tu sais, à la base, le Canadien...
Mais tant qu'à penser ça...
Mario, à la base, le Canadien aurait dû dire qu'il était blessé au pied. Tu sais, on savait même pas, c'était le bas du corps, ça a été nébuleux. Écoute, il aurait pu juste dire, le Canadien... Chez Weber, sa cheville est enflée, puis on ne sait pas, il va falloir qu'elle désenfle avant qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Point final!
Il va aller rencontrer un spécialiste. Puis c'est normal qu'il ait rencontré un spécialiste. C'est le gars qui l'a opéré il y a 2 ans. Qui aurait pas compris ça? Alors là, on sort, on dit peut-être en fin de la semaine, la nouvelle qui s'en va au Wisconsin sort encore une fois. Le vice-président en communication du groupe CH dit dans un message sur les médias sociaux, écoutez, on peut rien, on dit rien. Ils sont même pas capables de dire oui, il est au Wisconsin.
2 heures avant qu'il fasse...
Exactement!
2 heures avant qu'il fasse la mise à jour, Claude Julien, Paul Wilson dit, on va avoir des nouvelles à la fin de la semaine.
Il n'y aura plus aucun commentaire là-dessus.
Puis là, Darren Drager sort l'histoire de TSN sort l'histoire du Wisconsin, puis genre, 1 heure après, on sait tout ce qui arrive. 4 à 6 semaines, 4 jours plus tard, il est sur la glace.
Il y a quelque chose qui marche pas, là.
Je sais pas trop quoi, mais
Weber a du courage.
Moi, je regarde les matchs de cette semaine, là. Je reviens encore.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, mais
Weber a du courage. Bravo, il montre que l'équipe est importante.
Mais je regarde les matchs de cette semaine, là. Sincèrement, même chez Weber à 60%, là, moi, je le veux parce qu'ils en ont besoin. Sincèrement, c'est croche, là. C'est croche. Il y a des revirements, ça fonctionne pas. Tu perds des avances dans des matchs où t'as pas le choix de gagner. Puis là, on le sait, là, c'est clair. Là. Le Canadien s'en va où? Dans le mur de béton. Là.
Ouais.
Clairement, s'en va dans le mur de béton. Sauf que tu dis, si on travaille bien, si on joue intelligemment, si on fait pas trop d'erreurs mentales, on va être capable peut-être d'éviter le mur de béton de justesse ou vraiment de frapper de plein fouet. Puis tu trouves le moyen de t'auto-saboter à 2 reprises. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe.
Mais c'est de la faute des arbitres.
Oui, c'est ça.
Aussi, mais
et
je pense...
Et des blessés.
Vous avez entendu le ton de mon... D'ailleurs, je vais avec des petits liners aujourd'hui, juste pour relancer la discussion. Était-ce la faute faute des arbitres, notamment samedi. Puis
on ben, peut même qui était croche. Honnêtement, l'officiel était croche. Je pense qu'on peut, tu sais, quand t'es rendu à dire au gars go peep yourself. Sincèrement, il a dit ça à Brendan Gallagher. Je pense que ça a manqué de retenue, ça a manqué de, d'avoir cette. Écoute, quand t'es en contrôle d'un match, c'est pas le genre de choses que t'es supposé de faire. Mais le Canadien marque même pas en avantage numérique. Fait que donc, ça change
quand
vraiment grand-chose.
Quand tu mènes 3-0 à un match, là, arrête de blâmer les arbitres quand tu perds.
Moi, je pense que c'est un match en deux
mais
temps.
Mais il était croche, honnêtement, l'arbitre.
Ah, regarde... Il a pas été bon, mais des fois, ça a avantagé le Canadien. Puis oublie pas que le Canadien est très dur à l'endroit des arbitres depuis le début de la saison. T'en avais même parlé toi-même
raison, en disant.
Je me souviens très bien, Jérémy, quand t'as dit, je pense à ce micro, qu'un jour, Claude Julien va peut-être finir par payer parce qu'il arrête pas c'est de pas picosser les officiels.
Il l'avait fait dans un point de presse, puis il n'y avait pas eu d'amende à l'époque.
Alors, c'est peut-être arrivé samedi.
10 000 $ d'amende pour Claude Julien, donc qui a commis un geste beaucoup plus grave que le double échec de Zdeno Chara au visage de Brendan Gallagher selon les standards de la Ligue. Quand même, ça met les choses en perspective.
Mais c'est ça,
choses importantes.
Mais juste un point, c'est quand même deux départements différents de la Ligue. Ils se parlent de la main gauche, je parle pas la main.
Merci de m'éclairer, Alexandre.
Mais c'est deux départements différents qui donnent ça. Le 10 000 piastres, je pense qu'il est mérité. Okay? Je pense que Claude Julien n'a pas, ou n'importe qui dans la Ligue, n'a pas critiqué le Tata Elisabeth. Aussi pourri soit-il, ça a été terrible. Honnêtement, en fin de semaine, je trouve une horreur. C'est pas pour ça que le Canadien a perdu. Il y avait à protéger son avance de 3 points, mais je veux dire, t'as pas à critiquer le travail des arbitres comme ça. Il méritait 10 000. Le problème, c'est Chara. Lui, il méritait pas mal plus que 5 000. Je veux dire, un geste comme il a fait avant Gallagher aurait dû être puni davantage.
C'est
mais
fou,
c'est pas le 10 000 à Claude Julien qui pose problème.
Non, c'est fou. Quand t'amènes ça, là, c'est vrai, on réfléchit à ça. Le gars donne un double échec dans la gorge d'un joueur de hockey. Devant l'officiel juge de ligne, il est là. Ouais. Tout le monde le voit. On voit les reprises. 5 000 $. Et là, t'as notre ami Claude Julien qui dit, on a dû battre deux équipes faisant référence aux Stars puis aux officiels. Lui, on lui donne 10 000 $. Quelque chose qui marche pas là-dedans, je pense.
Et je sais pas, une entreprise rentable comme le Canadien, là, tu confies à un spécialiste des relations publiques le mandat de changer le point de discussion après une défaite inacceptable où tu venais 3-0. Ça vaut bien 10 000 $, ça.
Ouais, ben oui, c'est ça. Ça vaut bien 10 000 $, exactement. Parce
mais
que
je me serais payé à traite un petit peu plus si j'avais été Claude.
Mais moi, j'ai trouvé ça très ironique parce que je me souviens très bien d'une petite crise qui est arrivée avec le Canadien. C'était en 2015. Dans la série entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay, il y avait eu une chicane en fin de match. Puis Brandon Prost, qui jouait pour le Canadien à ce moment-là, il a reçu une punition. Puis là, après, dans le vestiaire, il a fait des commentaires contre l'arbitre. Puis l'arbitre m'a envoyé exactement ce que Claude Julien a dit. Tu sais, l'arbitre m'a envoyé promener, pas respecté et tout. Et là, qu'a fait le Canadien à ce moment-là? Ils étaient très choqués, non contre l'arbitre, mais contre Brendan Prost, parce qu'ils nous ont rappelé que le code, c'était le code. Et ce qui se disait sur la patinoire restait sur la patinoire. Et Michel Therrien nous l'a dit, et Marc Bergevin l'a appuyé dans tout ça. Mais là, semble-t-il que ça, c'est une autre politique qui vient de changer chez le Canadien.
La géométrie variable.
Mais dans un match, je répète, dans un match où tu prends les devants 3-0 face aux Stars de Dallas et que tu te fais remonter puis que tu perds le match, sincèrement, je pense que Claude Julien a saisi l'opportunité également pour laver son linge sale en famille et donner l'appui inconditionnel. Parce qu'il l'a dit aujourd'hui, les joueurs sont contents de savoir que je les ai défendus.
En fait, honnêtement, il y en a pris une pour l'équipe, là, soyons francs. Il y en a pris une pour les joueurs qui méritaient d'être extrêmement critiqués. Écoute, là, tu mènes 3-0. Tu dois gagner un match comme celui-là. Il n'y a aucune raison. Les joueurs ont eu aucune chaleur. Aucune chaleur, en fait. Ils ne se sont pas entraînés dimanche pour ce qui est arrivé. Allô? Ben, tu sais, là-dessus, comment tu veux blâmer Claude Julien?
Au
niveau corporatif, il a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse.
Ça explique le Canadien cette année. C'est capable, dans un même match, de connaître de très, très bons moments, puis à un moment donné, de s'auto-saboter. Je dis même pas baisser de régime, créer des revirements, donner la rondelle à l'équipe adverse.
Écoute, non, mais attends, Jérémy, là. Jeff Molson a quand même dit que c'était une équipe qui avait du caractère. Là. Non. Les joueurs, à la fin des périodes,
les never say quit.
Les no quit.
Il y a une autre chose là, dont personne n'a parlé, puis je sais que ça, c'est toujours très délicat. Là. Mais il y a une petite chose aussi en prolongation. Là. Le gardien des Stars de Dallas, il a fait combien d'excellents arrêts en prolongation? Ouais. 3. Le gardien du Canadien, il en a fait combien? Il n'en a pas fait un. C'est ça qui est arrivé aussi.
Et même sur Seguin, honnêtement.
C'est ça. Il n'a pas été génial non plus.
Non.
Il n'a pas fait d'arrêt avancé.
C'était une belle fin sur le défenseur, mais c'était arrêtable.
Ça nous amène à un autre beau sujet de conversation. T'es dans une situation extrêmement difficile. Tu sais que tu commences à perdre des plumes. Tu mets Carey Price dans un 2-2. Écoute, à un moment donné, Carey Price, c'est le fun, là, mais ça se peut-tu que le gars soit usé aussi? À un moment donné, arrêtez.
On le voit, ça fiche.
Mettez Charlie Lindgren. Là, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de deuxième gardien de but. Ben, allô, mettez ça sur la table, priorité numéro un.
Dans toute entreprise, où il y a des trous, là, à certains postes, là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse la job de l'autre. Tu sais, c'est ouais. et dans un milieu de compétition comme celui-là, c'est ça qui arrive. Et Carey Price, et je ne sais plus ce qu'on gère exactement par rapport à, est-ce qu'on gère vraiment la tentative de revenir dans le portrait des séries avec un retour d'un Shea Weber blessé, ou on est conscient comme membre solidaire d'une organisation qu'il faut gérer la perception qu'on va laisser d'ici la fin de la saison, parce que on est conscient que c'est un groupe qui va continuer de vivre ensemble, puis que
Mario, je sais pas, je pense plus un joueur, moi j'y crois plus, il y a pas un joueur qui croit présentement que l'équipe va aller en série, ça se peut
donc
pas.
On gère quoi dans ce cadre-là de se questionner, c'est légitime, pourquoi donc un gars vient jouer blessé?
Ben moi je pense que rendu, je sais pas pour Weber, je pense que les autres joueurs à partir d'ici jouent pour leur contrat principalement, ou il y en a qui jouent pour des contrats, il n'y en a pas beaucoup chez les Canadiens des joueurs
mais pas Weber,
Weber je pense que c'est un cas qui est à part,
mais c'est pas le plus important, pourquoi il revient, qu'est-ce qu'il veut faire pour l'organisation?
Je pense pour les gars qui le font, pour les gars dans le vestiaire qui le fait. Moi, je suis convaincu que c'est pour les gars dans le vestiaire qu'il fait.
Puis un peu pour lui, donner un coup de main à tout le monde. Il y a quand même une nouvelle qui est sortie la semaine dernière qui a été très piquée au vif, là, parce que c'est passé par les rumeurs qui sont sorties à Toronto. C'est un homme fier. Peut-être qu'il veut aussi, lui, passer un message à tout le monde de genre, je suis le chef.
Ouais, c'est bon, ça. Parce qu'en plus, c'est que ça donnait l'image d'un joueur vieillissant. Tu sais, quand tu commences à dire un joueur, non seulement il est blessé, il pourrait manquer la fin de la saison, mais il pourrait manquer le reste de sa carrière. Oups, il y a quel âge déjà, Weber? Ah oui, 34, c'est vrai, il vieillit. Tu sais, ça envoie cette image-là. Et lui, il a probablement pas, qui, ça, c'est un bon point. Ça.
Qui l'a baptisé le géant pied d'argile?
Je pense que ça se peut que ce soit quelqu'un de la presse.
Alexandre Pratt.
Non, mais c'est sûr que quand c'est ça qui devient la perception.
Mais tu disais à quoi se raccrochent les joueurs du Canadien? Moi, j'ai pas l'impression qu'on se raccroche à penser qu'on peut faire les séries ou non. Je pense qu'on se raccroche après les insuccès de Toronto et les insuccès de la Floride. Étant donné que ces deux clubs-là, présentement, sont pas capables de capitaliser, gagner des matchs en série,
porte ouverte.
Ils font, hey, regarde, les autres clubs perdent. Peut-être que nous autres, si on gagne, on sera en mesure de se rapprocher du moins.
Puis là, pendant ce temps-là, Buffalo vient de les dépasser. Au classement.
Exact. Mais c'est ça. Quand tu regardes des fois, tu regardes d'autres, ça se peut qu'il y en ait d'autres en arrière qui viennent te dépasser. C'est ce qui arrive. Faut que tu gagnes des gars. Faut que tu gagnes des games. Puis malheureusement, on le fait pas chez.
Il y a des équipes mieux positionnées à la chasse des Leafs. Mais oui, t'as raison que les Leafs gardent la discussion ouverte. Mais je voudrais revenir à la frustration exprimée par Claude Julien après le match. Il en a exprimé beaucoup de frustration cette année, Claude Julien. Parfois contre les arbitres, souvent contre son équipe. En fait, je me demandais combien de fois cette année il a pu exprimer de la satisfaction. Et ça mène où, ça?
C'est un bon point.
Oui, c'est un très bon point.
Tu sais, mettons, si on regarde dans un autre, je le trouve très patient. Okay? Oui, il a critiqué ses joueurs, là, mais il aurait pu aller, depuis le début de l'année, bien plus loin. Si on regarde les coachs, par exemple, de baseball ou de football, là, qui critiquent leurs joueurs là, sans absolument aucune retenue, il aurait pu aller là. Il y a des coachs dans la Ligue nationale qui l'auraient fait. Moi, je trouve qu'il a beaucoup protégé ses joueurs cette année, qui ne lui ont pas toujours tout donné. Je regarde, par exemple, le genre de commentaire que peut passer Joël Bouchard là, depuis 4-5 jours à Laval versus ce que donne Julien. Là. Bouchard, il ne gêne pas en tout là, pour planter les joueurs qui sont là, même les jeunes, les supposés
mais
vedettes.
Ça marche pas plus.
En termes de gestion de personnel, je le trouve très, très, très patient avec ses joueurs qui lui ont donné.
Mais Joël ferait pas ça dans la Ligue nationale. Non, je gage le montant que tu veux. Une victoire à ses 10 derniers matchs. Peut-être qu'il est temps aussi qu'il brasse la soupe du côté du Rocket de Laval. Mais c'était pas pour être...
Ils l'ont brassé. La soupe, c'est depuis qu'ils l'ont brassé qu'elle goûte pas bon. T'sais, depuis que les trois gars sont en bas. Hey, Cale Fleury, là, qui est supposé être une des petites merveilles de Montréal, puis un bon espoir, là, il a joué 8 matchs depuis son retour, là. Il a un point, il est moins 8. Il est supposé être bon là, dans la Ligue américaine. Là,
mais là, les gars, peut-être qu'ils pensent son meilleur qu'il l'était. Ben, on leur a fait goûter à la Ligue nationale. On a fait des choses à l'envers. Non, mais Fleury a joué une année dans la Ligue américaine quand même.
Jérémy a raison. C'est une guerre d'égo. Oui. C'est ça le problème présentement.
Puis écoute, Joël Bouchard, dès l'arrivée des gars, a parlé de ça. Il dit tout le monde a son égo. Avant, ça allait mieux parce que personne n'avait d'égo. On faisait juste jouer. Là, maintenant, il y a l'égo. Il faut gérer le temps de glace. Il faut gérer
l'égo des kids qui viennent de revenir. Puis l'égo des vétérans qui voient qu'on donne tout aux kids.
Massi deux hier, deux vrais vétérans, là, Phil Veron et Riley Barber, en leur passant un message.
Puis ils ont perdu 3-0.
Oui, non, mais ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. Ça marche ni en haut ni en bas présent.
Okay, puis tu sais, Kotkaniemi, là, juste puisqu'on est sur Laval, là, il arrive à Laval, là, puis là, c'est tout feu, tout flamme, quoi. 6-7
ou là, en bas. Bon, ouais, mais en jeu de puissance, en jeu de 5 en avant,
à la maison. Mais là, quand l'équipe est repartie sur la route, on a vu le Kotkaniemi qu'on a vu à Montréal. Sur la route, c'est très difficile.
Moi, je me suis fait dire par quelqu'un d'une organisation de la Ligue nationale de hockey qu'il faut être patient avec Kotkaniemi dans la Ligue américaine. Il faut attendre au moins un bon 2 semaines avant de regarder qu'est-ce que le gars peut faire là. Parce qu'il dit, un, il y a de la frustration. Ouais. Deuxièmement, il faut que tu t'adaptes. Troisièmement, la Ligue américaine de hockey, c'est une autre ligue. C'est différent, ça frappe. T'es pas dans Watt comme dans la Ligue nationale de hockey. Le monde n'est pas à bonne place sur la patinoire. Il faut que tu t'adaptes. Est-ce qu'il va s'adapter? Ça, c'est une question. Mais je pense qu'il faut être patient. Juste revenir sur Claude Julien. Tu as dit, tu sais, ce gars-là a démontré tellement de frustration dans ses points de presse. Écoute,
en tout cas, qui n'a pas eu souvent l'occasion d'exprimer de la satisfaction.
Exact.
T'sais, hein?
Mais ce gars-là, sincèrement, là, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait pour être en mesure de gérer ça aussi calmement. Parce que Alexandre t'a dit, moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas sorti plus fort que ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il est conscient aussi de l'équipe qu'il a sous la main. Parce que souvenez-vous, publiquement, dans un point de presse, il dit « On cherche un défenseur gaucher
». Au début de l'année. Au début de l'année.
Avant la saison.
Quand le coach sort publiquement dans un point de presse pour dire « Écoute bien, le DG, on cherche un défenseur gaucher », je pense que c'est clair. Ça te dit sur les outils que tu as dans les mains.
Hey, tu me rappelles quelque chose. Oui, c'est vrai qu'au début de novembre, fin octobre, début novembre, il avait dit on cherche un défenseur gaucher. Mais souvenez-vous, là, quand il est arrivé, il a été interviewé. C'était un tournoi de golf. Je pense que c'est Jonathan Drouin. Puis ouais. Là, il a dit attendez au tournoi de golf parce que Marc Bergevin continue de travailler, travailler sur des choses. Puis peut-être.
On pensait qu'il y avait une transaction.
Tout le monde disait il se passe quelque chose. Il n'est rien arrivé. Fait que lui, il avait des attentes. Là. C'est clair qu'il y avait des attentes. Il y avait des espoirs. Puis il n'y a rien qui s'est matérialisé. Fait que là, il est pas fou, là. Il connaît ça, là. Okay,
non, mais rien, on est
c'est vrai qu'il n'y avait pas l'équipe pour aller
très loin. Il a passé beaucoup de messages en gérant le temps de glace de ses joueurs pendant l'année, tu sais. Puis c'est quand même drôle, tu as des gars qui ont 19 puis 20 ans, là. À nommer Kotkaniemi, Pilling, puis Fleury, je veux dire, qui se sont plaints de leur utilisation cette année. Des gars qui n'ont rien cassé, tu sais. Hey, puis là, après ça, ils se plaignent.
Hein?
Oui, exactement. Puis après ça, ils se plaignent. Ah, peut-être un petit manque de communication entre Claude et nous. Je m'excuse, la communication, un, il l'a faite par le temps de jeu, mais deux, il t'a protégé toute l'année. Il les a pas lancés en bas de l'autobus.
À part Suzuki. Suzuki, un moment donné.
Oui, mais est-ce correct? Peut-être
que Suzuki, tu sais, je veux dire.
Pas encore une vedette.
C'est pas encore une vedette.
Non, mais à mon avis, Suzuki est un joueur qui est plus mature aussi que les trois autres joueurs, là. Tu sais, puis je pense qu'il est capable de prendre certains messages mieux que les trois autres joueurs sont capables de prendre.
Mais c'est un piège quand tu fais goûter à la Ligue nationale à quelqu'un avant qu'il l'ait vraiment mérité parce que ça fait l'affaire de tout le monde. On fera pas l'histoire, là. L'an passé, quand il est arrivé, t'as une organisation qui a de la misère à incarner l'espoir. Là, tu repêches troisième au total. Avant que tu prouves que c'est pas le bon choix, faut toujours que tu le vois jouer. Le gars, il a binette de service, il devient le bouclier anti-cynisme l'an passé. Puis là, ben, il goûte à la Ligue nationale, il pense que c'est un NHLer. Puis là, tu l'envoies dans la Ligue américaine. Je parlais à Vincent Lecavalier la semaine dernière. Il dit, quand t'es dans la Ligue nationale, là, tu veux pas y aller en bas.
Ben non.
Puis là, si tu y vas, tu penses que t'es probablement big. Je prête pas d'intention. Puis la rumeur veut qu'il soit un peu cocky, le kid aussi, là. Tu sais, au-delà du sourire, la personne que les gens côtoient, là, il manque pas de confiance en lui. Fait que là, ben, faut que tu redresses ça. C'est comme quand il y a une patte croche à un moment donné, là.
Mario, attends, il n'y a rien qui garantit que ces gars-là, puis Mété, vont faire l'équipe l'année prochaine.
Ben
hein?
Non, il n'y a rien qui. Ça dépend ce qu'il va aller chercher comme joueur. Cette année, il s'est mis dans une situation de leur ouvrir le chemin pour nous faire croire que les jeunes forçaient la main de l'organisation. Mais quand tu n'engages pas de joueurs pour occuper les postes, c'est sûr, ils te forcent la main, tu n'en as pas d'autres.
Mais c'est ça qui va être intéressant à faire à la date limite des transactions. Est-ce que le Canadien va aller acquérir des joueurs de 21, 22, 23 ans? Parce que moi, je pense qu'il est en position de le faire et ça devrait être sa cible principale. S'il en amène, mettons 2-3, là, c'est des gens qui vont faire la compétition directe l'année prochaine à Mété, Fleury, Kotkaniemi, Pilling, là. Ils commenceront pas la saison, les quatre à Montréal. Moi, je serais vraiment étonné de voir Victor Mété commencer l'année prochaine, puis Fleury aussi. Écoute, là, ça va être des égos à gérer, puis pas un prêt. C'est une gang qui est très, très...
C'est serré.
Très serré. Je veux dire, Ryan Pilling et Kotkaniemi et Pilling sont des bons chums à l'extérieur. Tu sais, on les voit, ils posent plein de choses sur Instagram. Ils vont jouer au quai ensemble, ils vont au restaurant ensemble, ils vont dans les bars ensemble, tu sais.
Ils vont parler du coach ensemble.
mais c'est exactement mon point. Mais Mario, c'est le cas. Je veux dire, c'est comme des employés d'une entreprise quelconque qui vont souper ensemble dans 5 à 7. C'est sûr qu'ils vont parler de leur boss. Voyons donc.
Mais faut pas que tu tombes dans le syndicat des malheureux, par contre. Parce que si t'es jeune pis t'es en plus dans le syndicat des malheureux, je dis pas quand t'es vétéran, là, mais quand t'es jeune pis tu tombes dans le syndicat des malheureux, ça commence mal.
Ben, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer à Laval. Si on lit entre les lignes ce que Joël Bouchard dit depuis une semaine, ça semble être le syndicat des malheureux.
Par contre, on peut peut-être se fier sur un vétéran comme un gars qui a une bonne relation avec l'organisation, comme Carl Alsner pour les ramener.
Non, mais
aujourd'hui. Il y a un sourire en coin de temps. Mais
Mario, n'empêche que les problèmes à Laval ont commencé avec la promotion de Xavier Ouellet, là. C'est le capitaine de l'équipe, là, Xavier Ouellet. Là. Il devait faire quelque chose de bien pour que soudainement, ça s'écrase comme un baba au rhum. Là, tout
est. C'est un point intéressant à souligner.
Les babas au rhum, ça s'écrase.
Intervient vite cette métaphore-là.
Mais ce qui peut ouvrir la porte à la critique du point de vue des joueurs, si on essaie de se mettre dans leur peau, c'est de ne pas comprendre ce que la direction fait ou où elle s'en va. Ouais. Et nous, de l'extérieur, on fait pas partie de l'équipe, mais on peut se questionner à savoir, est-ce que le Canadien a toujours eu le meilleur alignement possible à chaque match depuis le début de l'année? Et c'était quoi les critères pour que ce soit un plutôt que l'autre? Pourquoi Ouellet est bon là, puis il était pas bon le reste de l'année quand on avait besoin aussi d'un défenseur? Ouais. Est-ce que là, on a jugé que c'était le meilleur défenseur à mettre dans l'organisation en haut là? Ou c'est quoi le motif derrière sa présence là? Ou, mais tu sais, si c'est le meilleur là, il était pas le meilleur il y a deux mois et demi? C'était Leskinen, c'était toute la gang, on fait des auditions, qu'est-ce que c'est-tu Star Academy? On va toutes les autres. Puis en même temps, c'est correct de prendre le pouls de ce que t'as comme potentiel, mais tu fais tout ça dans la Ligue nationale. Quand tu subis, hey, t'as des séquences de défaite 2x8 plus 1x4, puis on passe des auditions. Explique-moi, là.
J'ai l'impression qu'il y a des gars qui sont plus faciles que d'autres à bouger aussi. Tu sais, un gars comme Xavier Ouellet, c'est un gars qui est facile à bouger, tandis que t'as d'autres gars qui sont peut-être un peu moins faciles. Et là, selon moi, c'est ce qui arrive, c'est que les plus faciles, c'est eux que t'es capable de bouger, ouais, des envoyés en bas. Écoute, c'est peut-être pas la meilleure explication, ben, mais selon moi, c'est ça.
C'est une bonne explication. Tu sais, moi, je parlais en gestionnaire, là, pour l'avoir été très, très longtemps. Tu sais, à un moment donné, je pense que la direction du Canadien peut prendre ses décisions sans être challengée. Tu sais, le temps de jeu, les trios, je pense pas que
Claude ait besoin.
En haut, en bas, sur certains joueurs, je pense que c'est justifié, mais tu sais, sur la gestion du temps de jeu, t'as pas besoin de te justifier, à mon avis. Tu sais, maintenant, la nouvelle génération, je parle ici des joueurs qui ont moins de 25 ans, je m'arrange jusqu'à Drouin puis Domi, là, mettons, là-dedans, là. La nouvelle génération, elle pose bien des questions. Et la question qui revient, puis j'ai interviewé plein de coachs pour faire un dossier là-dessus, c'est pourquoi? Pourquoi mon temps de glace est si faible? Pourquoi je joue avec lui? Pourquoi? Puis, mais c'est correct. C'est la même chose en milieu de travail. Je travaille à la presse, j'étais boss, puis j'avais des journalistes qui me demandent, ben, pourquoi c'est un tel qui fait ci? Puis pourquoi moi je couvre ça? Puis pourquoi moi j'ai cette erreur-là? Ils posent pourquoi tout le temps. Et, je veux dire, Claude Julien fait face à cette situation-là. Quand il a commencé dans la Ligue nationale, il n'y en avait pas de joueurs qui posent pourquoi. J'en ai parlé des Patrice Bergeron, au début, il ne posait pas pourquoi. Puis,
Dans le temps, c'était décaissé.
Dans le temps, t'as fermé, puis, je veux dire, t'agissais. Là, ça a changé, puis ça a changé avec les jeunes. Puis, je m'excuse, mais tu sais, quand il n'en donne pas assez, puis que les gars, ils prennent pour acquis leur temps de glace, moi, je pense que c'est une des raisons qui a coulé le Canadien cette année. Est-ce que le Canadien avait le meilleur alignement? Je pense que Claude Julien a fait plein de décisions absolument impopulaires auprès des fans en faisant jouer Will puis Cousins puis tout ça. Je pense
ça justifie
quand même
quelque chose parce qu'il y avait un problème.
Ouais, mais il a fait jouer des recrues qui n'étaient pas
C'est ce qu'on lui a donné.
Il les a utilisés,
il avait pas le choix de prendre des gars qui avaient l'expérience parce que les kids ne répondaient pas.
Exactement.
Et là tu dis je souscrivais à ça, mais peut-être que ça a été impopulaire.
Et Alexandre dit à ce temps maintenant les jeunes demandent toujours pourquoi au coach. Puis ça c'est vrai, c'est la mentalité. Moi écoute, j'ai eu une discussion avec un gars dans le junior majeur qui me dit pire que ça. On demande pourquoi et lorsqu'on amène le jeune devant le vidéo pour dire, puis t'as-tu joué une pas pire game? La réponse est, ouais, pas pire. On n'a pas conscience de ce qu'on fait. Donc, on demande à avoir plus sans être conscient des erreurs qu'on fait sur la patinoire.
Ben,
fait que tu vois, c'est un problème majeur, là.
Quand Cale Fleury avait dit, là, après une défaite de je sais pas combien,
1000 à 0.
Ouais, c'est ça, exactement. Il dit, voyons, moi, je comprends pas. Il avait fini -3. Je pense qu'il y avait un Corsi de 10. T'sais. Voyons donc, tu sais pas pourquoi t'es dans les astrales. Je veux dire, on va te faire un dessin, le grand, là. Mais n'empêche, c'est quand même, c'est une réalité avec laquelle ils ont à travailler. Moi, je pense que Claude Julien toujours essayer de mettre le meilleur alignement possible. C'était pas l'alignement qui plaisait aux fans, mais force est de reconnaître aujourd'hui, aux trois quarts de la saison, que les kids, ils méritaient pas le temps de jeu.
Moi, j'ai goût d'ajouter quelque chose à la conversation quand on parle de Claude Julien. Ça fait une couple de journées que je me questionne. Je me dis, OK, si moi, je suis coach canadien, je m'appelle Claude Julien, comment j'arrive pour intéresser mes gars, tu sais, match après match, quand je vois qu'ils ne répondent pas, ils font encore les mêmes erreurs. Et souvenez-vous, là, quand il a parlé de commitment, c'est arrivé à quelques reprises. Fait que je me dis, comment j'arrive à les intéresser pour rendre ça encore compétitif? Puis sais-tu quoi? Moi, si j'étais lui, je serais à court de moyens.
Ouais.
Je serais à court de moyens. Je me dis donc, si moi, je serais à court de moyens, clairement, lui, c'est un coach dans le pro, fait qu'il doit avoir d'autres moyens, d'autres solutions, puis ça n'a pas l'air à fonctionner. Fait que je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment donné, puis je la pose, est-ce qu'à un moment donné, il faudra arriver et dire, peut-être que Claude Julien, c'est peut-être plus le gars pour faire ça. Ben. C'est peut-être plus le gars pour faire... Et rien contre lui, là.
Mais il y a des gars, puis le message n'a pas l'air à rentrer ben,
regarde,
présentement.
Je vais vous citer
Claude. C'est une question qui se pose parce qu'il a dénoncé question. Le manque d'engagement.
Il a tellement été frustré
ouais.
souvent.
Oh, oui, et oui, puis là, ça doit...
Quasiment pour l'aider,
ça doit dirais. Devenir un irritant dans la exact, communication exact, avec les exact. Joueurs parce qu'à un moment donné, si le regard qu'il a est un regard insatisfait, ben là, veux pas, quand t'es celui qui se fait toujours regarder avec ses yeux-là, des fois, t'as besoin de nouveaux yeux. Puis je veux juste préciser une affaire avant que tu relances, Alexandre. C'est quand je questionnais ce que le Canadien a toujours présenté son alignement A, c'est pas tant Claude Julien que j'ai interpellé. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est davantage les décisions d'organisation que je questionnais.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, Claude Julien, est-ce qu'il est encore capable de communiquer? C'est drôle, là, parce que les anciens joueurs de Claude Julien ou ceux qui ont plus de 30 ans disent
c'est ça
toujours,
qu'ils vantent.
Oui, ils vantent toujours sa communication. Ah, Claude, on sait toujours à quoi s'en tenir, ça. Je vais vous lire la citation de Claude Julien qu'a donnée à Guillaume Lefrançois, qui est notre collègue, l'année dernière sur les jeunes. Okay? Il dit, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus à l'aise de rentrer dans ton bureau pour parler d'une situation, pour te challenger s'ils sont pas d'accord. Des Tomáš Plekanec ou moi, dans mon temps, on n'osait pas aller cogner. Si on ne jouait pas, on se disait que c'est parce que le coach n'était pas content, il fallait que je sois meilleur, c'était ma job d'être meilleur. Aujourd'hui, ils viennent cogner à ta porte. Pourquoi je joue pas? T'es obligé de leur expliquer. Dans le temps, on était capable de figurer les choses. Aujourd'hui, on le sait, mais on veut l'entendre.
C'est intéressant, merci de nous le rappeler.
Il y a raison, mais c'est maintenant ça. Fait que donc, c'est t'as ça. Pas le choix de Exactement. T'adapter à ça. Et je pense sincèrement que Claude Julien essaie de s'adapter à ça. Sauf que t'as tellement connu d'insuccès cette année, je me dis, en quelque part, est-ce que le canal de communication est toujours bon entre les joueurs et Claude Julien? En fait, même pas. Claude Julien, es-tu capable encore de regarder ces gars-là? Parce que sincèrement, à plusieurs reprises, les joueurs ont fait des mains de Claude Julien. Là.
Ah oui.
À
oui.
plusieurs reprises.
Et il s'est permis, dans les récentes semaines, de questionner l'engagement, le désir ou le manque de désir de respecter les consignes, de jouer de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'il a embrassé l'arrivée de Kovalchuk, un gars qui essayait de racheter la perception qu'il dégageait en fin de carrière, qui était prêt à faire tout ce que le coach demandait. Et puis là, c'est dit, bon,
enfin, quelqu'un qui jouait pour le coach.
Mais tu sais quoi, je vais mettre un astérisque là-dessus parce que les joueurs qui en ont donné au coach, tu sais, ceux qui ont pas, comment dire, ceux qui sont commit là, envers le coach, là, Price, mm-hmm. Weber,
oui.
absolument, Petrie,
oui.
Tatar,
Sherrod,
Thompson,
Sherrod,
Gallagher et Kovalchuk. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est les 8 gars les plus vieux de l'équipe.
Ah, clairement.
Quand tu y penses, ouais. le problème, il est chez les plus jeunes, là. Le message,
mais les plus jeunes n'ont pas produit. On
l'a
dit, les gars, ça fait quand même 37 épisodes aujourd'hui. Ouais. On en a eu des discussions. Qu'est-ce qui a fait défaut? Deuxième gardien, pas capable, sur lequel on n'est pas capable de s'appuyer. La relève provenant de Laval n'a pas produit vraiment quand on a eu besoin d'elle. Et les recrues qu'on a un peu forcées dans l'alignement, autre mm-hmm. Suzuki, n'ont pas produit. Suzuki a 90% de la production de tous les joueurs recrues. J'inclus Kotkaniemi dans la définition des joueurs recrues.
Faiblesse en défensive aussi.
Faiblesse en défensive. Puis, en plus, là, ajoutons, manque d'engagement envers le système collectif. Ah, écoutez, les gars, honnêtement, là, tu sais, je parlais à la blague d'un mandat de relations publiques, mais ça, c'est tout un mandat de relations publiques pour l'organisation d'ici la fin de l'année pour s'organiser. Puis pour l'équipe, comment on va faire en sorte que ça soit pas la catastrophe ou que on ne termine pas l'année en crise? Tu sais, est-ce qu'on peut éviter ça, les gars?
Je lève ma main, OK, je veux commencer. Je veux juste dire une chose. Encore là, je me mets dans la position de Claude Julien. Je sais pas si je serai de retour l'année prochaine. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. OK? Je connais la game. J'ai de l'expérience dans la Ligue nationale. Ça se peut que je sois pas là l'année prochaine. Je te garantie d'une chose, je ne sais pas si je vais recoacher encore, j'ai fait beaucoup d'argent avec mon dernier contrat. D'ici la fin de la saison, il reste quoi, 21 matchs? Je te jure que je mets sur la sellette ceux qui n'embarquent pas dans le système.
C'est sûr.
Je te lance en dessous d'autobus ceux qui n'embarquent pas dans le système, c'est sûr. Il y en a qui le méritent. Là. Écoute, Max Domi, là, il a beau avoir fait l'entrevue d'après-match avec la bouche en sang, là, mais sincèrement, là,
c'est lui aussi de faire ça.
Mais Jérémy, ça se passe déjà. Il a coupé le temps de glace d'abord à Mété, après ça à Fleury, après ça à Kotkaniemi, après ça à Pelling. Il en a envoyé 3 des 4 en bas. Domi joue sa troisième ligne. Là, c'était Will, qui est un de ses joueurs préférés. Will, aujourd'hui, qui était sur le premier trio. Ça envoie des messages, mais pas un peu à tous Clairement. Ceux qui sont pas là. Là-dessus, je trouve qu'il gère plutôt bien son effectif. Le problème, c'est que ceux qui en donnent pas, on dirait qu'ils l'entendent plus. Je veux dire, c'est un problème. Là.
Clairement, mais on va le voir encore plus. Ouais. Ça va être plus évident.
C'est déjà difficile pour un entraîneur de résister au passage du temps, même quand ça va bien. Tu sais, tu suis d'une saison où ça va moins bien tout à coup, puis on est tanné du discours. Que Claude Julien soit encore là, à l'heure actuelle, c'est sans doute normal, mais s'il est encore là la saison prochaine, puis moi, je dis pas que c'est lui nécessairement le responsable, mais ça serait, à mon avis, hors de l'ordinaire. Parce que habituellement dans la Ligue nationale, quand une équipe rate aussi souvent les séries éliminatoires, quand elle ne progresse pas de saison en saison, ce qui sera le cas du Canadien, mauvaise saison cette année par rapport à la précédente, tu sais, t'es supposé procéder à un changement. Mais là, ça aussi, ça touche le directeur général. Là. Ça va faire 4 fois en 5 ans qu'il ne participe pas aux séries éliminatoires. Puis lui aussi, là, l'équipe ne s'est pas améliorée. Puis il y a des
lacunes. Fait que sacrifié sera-t-il l'entraîneur?
Ben, je sais pas.
C'est souvent le cas.
Mais d'un point de vue hockey,
si
agneau sacrifié, il y a.
Non, mais d'un point de vue hockey, je pense que oui, moi. Est-ce qu'ils peuvent revenir avec exactement la même équipe de direction l'an prochain?
Je pense pas. Je pense pas que ça va arriver.
Dire aux gens, écoutez, là.
Ils peuvent, Philippe.
Oui,
ils peuvent décider de le faire.
Mais tu sais, je veux dire, pour la qualité sur la patinoire, parce que là, on parle beaucoup de ce qui est à l'extérieur, pour ce que ça représente. Mais pour le point de vue hockey, hockey-wise, là, tu peux pas remettre Claude Julien, à mon avis, dans cette situation-là avec les mêmes gars. Soit que c'est des gars qui vont changer puis on va garder Claude Julien, ou soit que c'est Claude Julien qui va changer puis on va garder les mêmes gars. Mais tu peux pas remettre les deux pour une autre saison comme ça.
Moi, je pense que ça va prendre un bouc émissaire là, au bilan de fin d'année là, parce qu'ils vont se faire griller pas un peu. Là. On a peu accès présentement là, à Bergevin et tout ça, mais moi, je pense qu'on va avoir besoin de bouc émissaire. Et à mon avis, ça va soit être Bergevin et Julien ensemble, ou bien ça va être tous les gens qui les entourent, les adjoints, puis tout le département du dépistage, puis tout ça. Là, c'est soit un groupe ou c'est soit l'autre, mais il va avoir quelque chose à peine d'année. C'est sûr qu'il va avoir quelque chose.
Mais là, je reviens sur ton point, puis un peu en répondant à ta question, c'est que Claude Julien, si on est, en tout cas, si on fait suite à ce qu'on disait tout à l'heure, que tous ces vétérans, puis le noyau, répond présent et applique le système, donc tu congédierais l'entraîneur parce que les recrues n'ont pas produit?
Non.
Tu sais, ça devient vraiment un agneau symboliquement sacrifié.
Ça fait partie du sport, ça aussi.
Oui, de développer tes jeunes.
Non, ce que je veux dire, de faire un geste coach, symbolique. Ouais. De dire, écoutez, ça n'a pas fonctionné.
Là-dessus, oui.
On part en
neuf. Là-dessus, oui, mais pas parce que le noyau de l'équipe demande la tête de l'entraîneur. C'est pas ça qu'on sent. C'est juste dans le sens.
Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas.
Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que, encore là, je reviens au propos de Claude Julien qui a dit dans un point de presse, on cherche un défenseur gaucher. Selon moi, l'entraîneur, c'est un bon coach. Un excellent coach de hockey.
Il n'y a pas eu d'outils
cette saison. Puis là, on lui demande de courir vite avec une patte cassée. Puis là, on dit, vas-y, cours, puis il faut que tu cours plus vite. Moi, je pense sincèrement que ça devient difficile pour lui et je vois pas comment, après avoir pressé le citron, avoir eu peu de jus, mais pressé beaucoup de citron, je vois pas comment t'es capable de reprendre ça, à moins de changer de citron.
Les deux qui partent. Je pense, moi, je suis convaincu que si Julien part, c'est les deux qui partent. Là, écoute, là, Julien...
Comment tu vois ça? Explique. C'est la décision de Jeff Monson qui dit...
Je pense que si Claude Julien s'en va, c'est mon opinion, là, mais je pense que Marc Bergevin passe avec. Écoute, là, il a demandé... un défenseur gaucher depuis le début de l'année. On y en a donné, à un moment donné, des Olofsson puis des Leskinen.
Les auditions tout à l'heure.
Il les a fait jouer 5 minutes parce qu'il avait zéro confiance. Ça dit-tu un... Ça en envoie un message à tes boss, ça, de vouloir dire, hey, regarde, là, les poubelles.
Moi, je pense pas que Bergevin va partir. Honnêtement, je pense que c'est lui qui est en charge du volley hockey dans le groupe CH. C'est lui le chef incontesté. Je pense qu'il va demander, Jeff Monson, selon mon point de vue, va demander à Marc Bergevin, écoute, Marc, ça a juste pas de bon sens. Trouve-moi quelque chose. Fais quelque chose. Brasse les cartes un peu. Et là, moi, je pense que peut-être que Claude Julien pourrait... est-ce que ça sera Trevor Timmons, Claude Julien?
Je regarderais plus du bord de Trevor Timmons que Claude Julien, je pense. Mais bon,
peux-tu continuer comme ça? Avec un coach qui a été aussi frustré que ça durant toute la saison dans les points de presse. Je pense que ça devient difficile.
Ça devient difficile. Puis il faut que tu
Je l'aime, c'est un bon coach. Il faut que
tu redonnes espoir aux fans aussi. Puis Bergevin, là, tout le monde souligne, il a fait des bonnes transactions. C'est vrai, il a fait quelques bonnes transactions. C'est correct, là. Mais il y avait un défi à régler l'été dernier. Il y en avait un. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut trouver un gardien réserviste pour cette équipe-là. C'était fondamental. Si notre ami Danny Dubé n'a pas parlé de ça dans ses interventions aux amateurs de sport, Mario, combien de fois, puis il l'a chiffré combien ça devait donner de points, puis vous en avait discuté, puis tout. T'sais, c'était fondamental. Tout le monde savait ça. Ça a été un échec. C'est un gros échec là, quand on regarde ça. On parlait de l'affiche de Price. Là. Il est obligé maintenant de garder 2 matchs en 2 soirs. Je pense qu'il n'a pas gagné un encore cette année dans ces 2 matchs en 2 soirs.
On va être franc, là, si on donnait des notes de bulletin à Bergevin, mettons, pour les 5 dernières années, là, il y aurait probablement A pour les échanges, puis E pour les joueurs autonomes, puis peut-être, je sais pas, quelque part entre C puis D pour les repêchages, ça va pas très bien.
Tu sais, Marc Bergevin, il y a quelque chose que personne ici a, ça s'appelle une carte blanche. Il y a la carte blanche de Jeff Molson, puis ça, selon moi, ça va lui permettre, c'est un joker qui peut sortir, qui va lui permettre peut-être de rester encore là. Est-ce qu'il sera là encore longtemps, je sais pas.
Moi, je pense qu'il y a une semaine là, pour sauver sa job. Là. Je disais, le Canadien est à la croisée des chemins, c'est la date limite des échanges la plus importante des 5 dernières années. Puis s'il fait le statu quo, comme ça semble un petit peu se dessiner. Là. S'il n'y a rien de majeur qui se fait d'ici la semaine prochaine, à quoi aura servi la saison?
Mais les gars, c'est rare qu'il ait fait quelque chose de majeur quand son équipe avait l'occasion, les rares occasions qu'il a eu de bonifier son équipe. Ça n'a pas été des acquisitions spectaculaires, outre Vanek. Oui, mais à part de ça...
Vanek et Petrie.
Et puis, c'est au début de son mandat avec son héritage. Mais depuis qu'il surfe avec son équipe, son effectif, il n'y a pas eu d'autres occasions de se commettre comme ça.
Ben là, ce soir, il est au match, semble-t-il, entre Lightning et l'Avalanche au Colorado, quand même. Et on sait que Julien Brisebois, supposément, est à Montréal. Moi, je ne l'ai pas croisé, là, mais ça a l'air qu'il est à Montréal la semaine dernière. On peut se demander quand même s'il y a quelque chose en préparation.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, maintenant, pour changer la perception, qu'on se dise à une autre bonne transaction de Marc Bergevin qui vient de nous rassurer dans sa capacité de mener ça à bon port à un moment donné.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les deux équipes viennent d'être impliquées là, dans des rumeurs très importantes dans les 3-4 derniers jours. Fait que le Lightning vient d'échanger un choix de première ronde, plus vraiment un top espoir.
Oui, oui.
Je regardais l'alignement du Lightning. Il ne reste plus grand-chose d'intéressant pour le Canadien. On parle surtout de joueurs de soutien. On parle de gars, par exemple, Alex Barry-Boulet, que le Canadien voulait, qui est très, très bon dans la Ligue américaine. 44 points en 51 matchs. Un jeune centre de 21 ans, mais il n'est pas sur ton top 6, là.
Format réduit, Cole Caulfield qui s'en vient, c'est le profil de gars que tu recherches.
Mais ils ont beaucoup de Québécois, format réduit. Le Lightning, ils ont Gabriel Fortier aussi dans leur organisation.
Yannick Gourde qui vient de signer un contrat.
Cédric Paquet. Ben, tu sais, Yannick Gourde, on en parlait. C'est sûr que c'est un gars qui a du cœur, mais qui a un but à ses 36 derniers matchs.
Non, mais il a connu quand même deux saisons de plus de 20 buts. Là,
mais
avant,
5 millions par année jusqu'en 2025.
C'est un gros contrat, honnêtement. C'est un très gros contrat.
Ça fait mal.
Sauf que Yannick Gourde, regarde bien, là, ce gars-là, selon moi, c'est. Ça représente un peu l'ADN qu'on voit du Canadien. Si on aime Gallagher, vous allez aimer Yannick Gould, c'est ça. Capable d'avoir des points, capable de brasser un peu. Pas un gros bonhomme, mais qui a joué avec Philippe Dano, avec l'éthique de Victoriaville. Tu sais, est-ce que Gould peut devenir ce que Dano est devenu avec le Canadien? Ça veut dire que Dano a pris une place plus grande que prévu parce que dans un club peut-être un peu moins fort. Est-ce que Yannick Gould pourrait avoir ce genre d'impact?
Mais là, on donne qui, là? Yannick
Gould, il y a tellement un gros contrat, là. Écoutez, là, c'est malade. Il y a 5 millions. Pour jouer de sa quatrième ligne. Là,
il y a une clause en un échange, soit dit en passant.
Oui, c'est ça en plus. Et je veux dire, sérieusement, il y a 28 ans. Là.
Mais Martin McGuire, Danny Dubé, on a fait un show là-dessus à Bonsoir les sportistes la semaine passée. Martin, eux, ont fait l'exercice à savoir qu'est-ce que le Canadien pourrait être intéressé et qu'est-ce que le Lightning de Tampa Bay pourrait trouver intéressant du côté du Canadien. Puis on en est venu à la conclusion que peut-être que Max Domi pourrait être une monnaie d'échange justement pour aller chercher un gars comme Yannick
Gourde. Oui, un mix de, mettons, Paquet, Gourde, Boulet, mais... Sinon, l'Avalanche, par contre, a vraiment plusieurs joueurs intéressants pour le Canadien.
Qui serait intéressant?
Il y en a trois qui sont
vraiment intéressants. Et qui serait-il disposé à laisser aller aussi, Alexandre?
Trois joueurs intéressants. Le premier, j'en ai parlé dans les deux derniers podcasts, c'est Connor Timmins, qui est un défenseur offensif de 21 ans, un choix début de deuxième ronde. Il a raté toute la saison dernière. Un droitier. Très, très offensif. Okay? 6 pieds 2, 200 livres. Il y a quand même un trou du côté droit de la défense du Canadien. Présentement, il a été blessé. Il a raté toute la saison dernière en raison de commotion cérébrale. Il a encore été blessé cette année, mais depuis qu'il est revenu au jeu, il maintient une moyenne d'un point par match. T'sais, des défenseurs offensifs droitiers dans l'organisation, il n'y en a pas. Donc, ça comblerait un
bon. Des deux bords. Jeff Petrie,
quand même offensif. Non, je parle des espoirs. Là, il n'y en a pas de jeunes. Puis, il y a quand même Nikita Zadorov. On a aussi parlé la semaine dernière. Lui, là, c'est
le gros format.
Très, très gros format géant. À un moment donné, lui, il n'y aura plus de place.
Mais ils veulent garder ça pour les séries. Ça...
Mais, oui, mais je suis d'accord. Mais regarde bien. Ils ont Eric Johnson déjà à droite. Ils ont Makar. Ils ont Zadorov.
C'est une classe à part.
Non, mais je parle comme brut dans l'hockey des séries.
Juste pour le placer, c'est lui qui a blessé Kotkaniemi.
Exactement. 6-6. C'est une brute. Bon, il y en a un autre, je crois pas qu'il soit sur le marché, mais c'est Tyson Jost, qui est vraiment un jeune attaquant de qualité, mais qui est un petit peu pris aussi dans le depth chart là, de l'Avalanche. Il sera pas une pièce maîtresse, mettons, de la percée de cette année. T'sais. Est-ce que, par exemple, un joueur, puis là, je spécule, là, j'ai aucune information en ce sens-là, mais t'sais, Max Domi, c'est quand même une amélioration à court terme là, sur Tyson Jost. Et il leur manque des centres. Là. L'Avalanche, présentement, ça va pas bien. Nazem Kadri est blessé pour 6 semaines. Ils viennent de perdre Wilson pour le reste de la saison. L'Avalanche pourrait vouloir chercher un centre présentement. Le Canadien en a.
Quand je regarde, le Canadien a 10 choix pour le repêchage de 2020. Et quand tu regardes ce qu'ils ont à donner, à moins là, d'aller vraiment dans le noyau, là, donc ceux qui veulent toucher à des tatars, moi, je crois pas à toutes ces rumeurs-là, ces scénarios-là. Là. Je pense que ça sert à alimenter les conversations, puis Je devrais peut-être me rétracter le jour lundi prochain.
Quoi, parce tu veux dire qu'ils vont les garder?
Ah, oui, moi, je suis convaincu qu'ils gardent Tatar et Petrie. Non, mais il y en a plusieurs qui, au lendemain de la transaction que Tampa Bay a réalisée, pensent que là, c'est le signe venu du ciel pour dire qu'il faut, changer Tatar contre un choix de fin de première ronde puis un espoir de fin de première ronde l'an passé aussi. Moi, j'adhère pas à ça. Mais regarde ce que t'as échangé. Donc, si t'es pas dans la chair autour de l'os, là, ou même dans ta colonne vertébrale, scanne des gars selon leur situation contractuelle, Scandella, Kovalchuk, Weiss, je le dis juste, tu sais, pour la forme, Cousins, Thompson, Fallin. Puis là, si tu veux ajouter des gars, mettons, Mété, Domi, Drouin, mettons que tu genres. Mais tu sais, pour les gars là qui n'ont pas de contrat, fin de contrat, t'auras pas plus que, même si t'en mets trois ensemble, t'auras pas plus qu'un choix de deuxième ronde. Même si tu fais un package.
Un gars de la Ligue américaine.
Fait que c'est pas ça qui va permettre à Marc Bergevin de changer la perception.
Non, c'est pas du tout.
Fait que comment il fait ça, Philippe? Changer la perception.
Vas-y, on t'écoute, Philippe.
Ben oui, c'est ça. Ben, je pense que la question qu'il faut se poser, il faut s'en poser une avant. Est-ce que c'est lui qui devrait faire ça? Est-ce que c'est lui qui devrait prendre ces décisions-là? Et tu sais, moi, je pense que tout à coup, ça va peut-être prendre un nouveau regard sur l'ensemble de l'organisation du Canadien. Parce que c'est très difficile pour Marc Bergevin. Lui, là, il a pris des décisions au fil des années. Il n'est pas pour aller tout renverser ces décisions-là. Quand il les a annoncées, il nous a dit qu'avec ça, on s'en allait dans la bonne direction, que c'était un plan, puis qu'il y avait son plan, puis que les choses étaient claires et tout. Là, c'est un constat d'échec, là. Pas pour échanger Carey Price, là. Il a dit que c'était le joueur de concession avec Carey, tout est possible. Il a dit, il n'est pas pour échanger Weber, il a échangé Subban pour Weber, il en a fait le capitaine, il ne jure que par lui. Les autres, très difficile. Alors, moi, je suis pas sûr que... Je pense que c'est peut-être le temps pour un nouveau regard.
Tu me permets-tu juste, parce que Philippe devra nous quitter d'ici peu, puis juste pour compléter cette discussion-là, on a tous cette réflexion-là. Là. Qu'est-ce qu'on va éditorialement dire? Puis est-ce que Marc Bergevin est encore l'homme de la situation? Ne l'est-il pas? Puis là, ben, on cherche des exemples qui nous disent... on pourrait trouver des exemples qui disent eux autres qui ont manqué de patience, qui ont changé de dirigeant. Puis je pensais à des équipes comme Saint-Louis. Doug Armstrong aurait été DG ici à Montréal. Il aurait jamais eu le temps de se rendre à la Coupe Stanley, probablement. Mais est-ce que d'avoir un gars longtemps en poste, ça a du bien, ça a du mauvais? Est-ce que Montréal fait que c'est un four micro-ondes différent?
C'est un long séjour, Marc Bergevin. Là. Il est là
c'est
depuis
un très
2012,
long séjour. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de temps, là. Mais il a enclenché quelque chose, pas au début de son mandat, au milieu de son mandat. Tu sais, c'est juste les réflexions que je te partage. J'ai pas la réponse à ça. Je me demande, tu sais, le gars qui va arriver, il est-tu mieux équipé pour prendre des meilleures décisions?
C'est la théorie du regard différent.
Mais juste vous dire, dans le match du Canadien contre les Pingouins, Christopher Le Temps a dit quelque chose qui est exceptionnel. Il a dit, notre DG ici, l'organisation des Pingouins, s'assure de maximiser les années qui nous restent.
Oui, ben, raison.
Parce que nous sommes des joueurs de talent, on est un groupe qui a quoi, 32, 33 ans, puis à chaque année, on veut gagner la Coupe Stanley. Ben là, le message, moi, je le lance au Canadien de Montréal. Ton gardien de but, là, il est bon, parfait, mais ça, il reste pas 10 ans au gardien de but, là. Fait que donc, faut que tu sois en mesure de trouver un bon club, puis rapidement.
Les Pingouins, il aurait juste un de leur choix de première ronde des 10 dernières années, là. Je veux dire, puis ils sont quand même pas si pires, là, tu sais. Puis les Blues, on en parlait. Tu sais, les Blues ont quand même fait les séries, avant de les rater, là, il y a 2 ans, ils ont quand même fait les séries 6 ans de suite, là.
Il y a un coup de tonnerre qui pourrait arriver, là, puis je pense pas qu'il va arriver, c'est qu'il échange Carey Price.
Je penserais pas que ça arrive.
Non, moi non plus. Mais tu sais, j'essaie de voir d'autres choses. Comment provoquer un coup de tonnerre?
Je vous laisse en discuter.
Parfait, mon Philippe.
On s'en parle vendredi.
Je dois aller retrouver la radio en direct. Mais les gars, on a évoqué le départ possible et imminent selon le ton de certains propos de Claude Julien, peut-être de Marc Bergevin. Mais il y a une chose, vous savez comment ça fonctionne. Je pense là aussi que ça fonctionne pas mal de même dans tous les business. Toi qui étais cadre, Alexandre. Et d'ailleurs, la preuve la plus récente par rapport au poste d'entraîneur-chef, c'est que Michel Therrien a perdu son emploi quand Claude Julien est devenu disponible. Alors, je vous demande, qui est le successeur de Claude Julien? Si tu ne l'as pas, est-ce que tu prends une décision?
Je pense que tu ne
l'as pas identifié.
Moi, je pense qu'il n'est pas identifié parce qu'on ne sait même pas si c'est Marc Bergevin ou quelqu'un d'autre qui va le nommer.
Est-ce qu'on pourrait amener un nom, mais il faut changer les règles? C'est-à-dire, on a depuis tout le temps voulu avoir un coach qui était bilingue parce que le Canadien de Montréal a décidé... Non, mais écoute,
Non, je te laisse finir.
Canadien de Montréal a décidé que son représentant, celui qui s'adressait aux médias tous les jours, c'était l'entraîneur-chef. Moi, je vais te dire, t'as un gars qui connaît l'organisation du Canadien, t'as Gérard Gallant qui est présentement disponible. Pour moi, ce serait une option intéressante d'avoir Gérard Gallant derrière le banc du Canadien.
Ben moi, je pense que ça dépend. Ça va être qui le directeur général? Ça te prend une complicité entre ton directeur général et ton entraîneur-chef. Puis même, on n'a jamais parlé, mais qui est le successeur potentiel de Marc Bergevin?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas des masses.
Il y a une grande différence, mettons, si c'est Joël Bouchard ou si c'est Patrick Roy. C'est quand même deux. Tu sais, oui, ça ressemble un petit peu, là, mais c'est pas la même personne. Puis il faut que cette personne-là, après ça, s'entende avec le coach. T'sais, c'est pas évident. Je vois pas, là, Julien, mettons, d'ici la fin de la saison, je vois pas Bergevin remplacer Julien. Là. Ça peut pas arriver, à mon avis. C'est pour ça, moi, je trouve qu'ils sont très liés, quand même, les deux gars ensemble. J'ai de la misère comprends. À en voir juste un des deux partir à la fin de l'année, honnêtement. Là, c'est... Mais Gérard Gallant est un candidat de qualité. Je continue de penser qu'un coach qui parle pas français à Montréal part avec trois prises contre lui. Ça, on le voit là, dans les communications quotidiennes depuis quelque temps. Puis le Canadien, il n'y a pas 42 joueurs qui parlent français aussi. Il y a quand même un petit enjeu là, à court terme. Là,
c'est un sujet qui s'est déjà amorcé sur le fameux débat par rapport à la langue. Je suis content que tu l'amènes parce qu'à un moment donné, bon, c'est un débat qui est dans le marché. Puis là, tout le monde en vient à la conclusion que là, c'est ça le problème. Là. C'est ça qui fait que le Canadien, c'est parce qu'on se limite, nous autres, gang d'assimiler ou peu importe. De complexer, là, on se limite. C'est comme s'il n'y a pas d'entraîneur anglophone de congédié dans la Ligue nationale. La dernière fois qu'on a eu des conversations comme celle-là, c'était pour dire, hey, on a manqué Mike Babcock. Ça se peut-tu, nous autres, qu'on ait manqué Mike Babcock? OK. C'est qui le next? C'est qui le nouveau, là? Aladdin du coaching? C'est qui? Nommez-le. Puis, à Gérard Gallant, je vais te dire ceci. On l'accepterait, Gérard Gallant.
Je pense que oui.
Parce qu'on le connaît.
Parce qu'il était dans l'organisation.
Il fait partie de l'organisation, tout ça. Puis l'autre, c'est pas comme Connie Ward, puis l'autre que, tu sais, on connaissait pas. On le connaît. Il y a du succès. Je pense que on pilerait un peu sur le principe, mais ça ferait des vagues pareilles. Puis c'est parce que c'est un cas particulier.
Mais on change les règles, c'est-à-dire si t'arrives en point de presse avec l'assistant coach qui est là, exemple, si Dominique Ducharme reste avec, puis on fait un point de presse avec Dominique Ducharme puis le coach en chef.
Moi, je pense que c'est un faux débat. Que je pense pas que ça nous restreigne tant que ça. Ça nous restreint un peu.
Ben, je pense que oui.
Ouais. Mais c'est qui ton candidat?
Non, mais je vais juste prendre l'impact de Montréal l'année dernière qui a fini l'année avec un coach qui était pas québécois, là. Ben, je pense que c'est comme un petit peu plus dur pour... Pas québécois, mais francophone. C'est un peu plus dur quand même pour la radio puis la télé.
Ben
de
oui,
faire
Les gars, je pense toujours à mon père. Tu sais, mon père qui me dit toujours qu'il comprend très bien l'anglais. Je le salue, soit dit en passant, si jamais il écoute. Puis dans le fond, il comprend rien. Fait que donc, veux pas, faut que tu parles à ton public. C'est un marché, le marché québécois. Faut que tu parles à ton public. T'as pas le choix de t'exprimer dans une langue que ton public comprend. Maintenant, il faut que tu trouves peut-être de changer les règles. Il faut falloir changer les règles.
Un Québécois qui en croise un autre, il est capable de le saisir. Un Québécois, je m'exprime mal, OK? Un francophone qui en croise un autre, il est capable de saisir l'autre personne. T'sais, les Québécois francophones sont capables de saisir, ou les franco-ontariens sont capables de saisir Claude Julien tout de suite, juste la façon dont il parle, il communique. C'est pas la même chose, je veux dire. C'est quelqu'un qui parle pas français, qui communique pas les mêmes émotions, des émotions qui peuvent être comprises facilement, mettons, par la base, ça serait difficile. C'est pas impossible, ça a déjà arrivé avec Connie Ward.
Et un coach n'est pas synonyme de victoire sur la glace, parce que Gérard Gallant va être pris toujours avec le défenseur gaucher qui est pas là, le deuxième gardien de but qui est pas là, des jeunes qui répondent plus ou moins.
Puis les gars, c'est pas comme s'il y a juste nous autres qui embauchaient ces gars-là, là. Quand il y en a un disponible, Claude Julien, là, s'il devient disponible, il va recoacher, d'après moi, dans la Ligue nationale. Alain Vigneault, il est devenu disponible, il coach en Ligue nationale. Puis, tu sais, je regarde juste, là, il y a deux gars qui ont gagné un Jack Adams dans les 6 dernières années qui sont même pas dans l'NH. Bob Hartley, Patrick Roy. Jack Adams 2014, Patrick Roy.
Deux francophones.
Hartley 2015. Peut-être que c'est pas assez bon pour...
Deux francophones.
C'est pour ça que je les mentionne, c'est évidemment. Claude Julien l'a gagné en 2009. Vigneault l'a gagné en 2007. Jacques Lemaire en 2003. Jacques, évidemment, est à la retraite. Mais pour vous dire que des coachs francophones, Kenville a des racines francophones. Jacques Martin a gagné en 99. Pat Burns en 98. Bowman est un gars de Verdun bilingue en 96, Crawford en 95, Le Maire encore, Pat Burns encore. Mais on n'a pas des bons coachs, nous autres. Jacques Demers, que j'oubliais, tout ça. Mais c'est sûr que là, il y en a qui datent, il y en a qui sont plus là. Mais il y a des Pascal Vincent qui se préparent, il y a des André Tourigny, il y a des Dominique Ducharme, il y a des Joël Bouchard, il y a des Guy Boucher. Fait que, honnêtement, mais cela dit, même là, si on se dit, OK, je suis ouvert, je veux un coach bilingue. C'est qui les candidats? Gérard Gallant, t'as mon attention.
Bilingue,
on est sympathique à Gérard.
Bilingue,
les autres, je sais pas.
Problème. C'est unilingue qui est plus, à mon avis.
Gérard, il est unilingue, il parle
c'est
pas
ça,
français.
Mais, tu sais, les expos ont réussi, là. Ils avaient Philippe Alou pendant des années.
Les
Alouettes, Buck Rogers.
Mais sincèrement, les gars, soyons honnêtes, le problème, il est tellement plus gros que juste le coach, là.
C'est un faux débat.
C'est
ça, je dis, c'est un faux débat. Il n'y en a pas de débat, là.
Il n'y aura pas le choix. Ça n'aura pas le choix de se passer un moment donné parce que, comme je te disais, il y a tellement eu de frustration. frustration au fil des points de presse.
Pour Claude, tu veux dire?
Pour Claude Julien.
Ah oui.
Mais en quelque part, le problème, il demeure entier. Ça revient toujours au deuxième gardien de but, la défensive.
Le talent, c'est les joueurs.
Tu sais, je veux dire, nous, là, on doit regarder là, du côté de Marc Bergevin. Marc Bergevin, je m'excuse, il faut que tu fasses une job, il faut que tu amènes des outils à ton coach. Parce que tu peux avoir n'importe quel coach, il pourra pas plus gagner, là. Il faut que tu aies un club qui performe A+, tout le temps, pour espérer être compétitif.
T'as besoin de plus d'outils. On disait ça dans les trois premiers podcasts au début de l'année. Là. C'est un club qui est limité en talent. Dès que tu as des blessés, ça manque un petit peu de profondeur. Là. On est là-dedans. C'est exactement ce qu'on a vécu cette année.
Tu sais, dire la vérité, là, les organisations sont pas fortes là-dedans. On a vu les Astros de Houston récemment. Il y a bien des exemples. Puis le Canadien, je dis pas que c'est pas dire la vérité, mais tu veux pas tuer l'espoir avant que ça commence. Tu veux ouvrir la porte à la possibilité qu'on fasse les séries, même si tu sais que ça n'a pas marché avec AO, puis t'as pas un meilleur club. Que l'an passé. C'est difficile de.
Hey, c'est pas magique. Mario, la moitié des équipes en Amérique du Nord font pas les séries, peu importe le sport.
Exactement.
Puis la moitié des équipes disent toutes la même affaire.
Qui veulent les faire au début.
On veut les faire, puis on a des jeunes espoirs qui poussent, qui vont réussir. Là. Le Canadien a rien inventé dans ses communications. La moitié des équipes font ça. Là.
Mais où j'avais envie d'aboutir, c'est que est-ce que ça se dit, ça? Écoutez, c'est sûr que ça n'a pas été comme on voulait cette année. Ce qu'on a de besoin, c'est de quoi le Canadien a le plus besoin? De talent. Puis le talent, il va venir comment? Par le repêchage. Puis ça va prendre quoi? De la patience.
Ben,
puis espérer que ces gars-là repêchent mieux qu'ils ont repêché dans le passé. Il va falloir être patient.
Il y a quelque chose à court terme à faire. Honnêtement, il y a quelque chose à court terme.
Oui, il y a un noyau pas pire,
moi,
Jérémy.
Moi, je pense sincèrement que si tu es capable d'arriver avec un bon deuxième gardien de but, je donne un exemple. Je dis n'importe quoi, là. Là, ça va prouver pourquoi je suis pas directeur général dans la Ligue nationale. Mais t'as un gars qui tombe, joueur autonome sans restriction, qui s'appelle Corey Crawford avec les Blackhawks de Chicago. Tu l'amènes avec le Canadien à 4 millions par année. C'est gros, 14. Malheureusement, c'est pas moi qui ai décidé qu'on en donnait 10,5 à Carey Price. T'as besoin d'un bon deuxième gardien de but. Là, t'as un duo qui est solide, qui enlève de la pression
sur les résultats. À 2,5 par année, je sais pas s'il peut avoir 4 dans la ligue quelque part ailleurs.
Je te dis n'importe quoi. Là.
Ouais, ouais.
Mais ce que je dis, c'est que quand t'as deux gardiens de but, ça enlève de la pression sur les résultats quotidiens de tout le monde.
Totalement d'accord.
T'es capable d'avoir deux bons gardiens, ce qu'ils ont pas présentement. Puis j'ai rien contre Charlie Lindgren, j'ai rien contre Caden Primeau. T'as pas ça. C'est ça le problème numéro un là présentement. C'est le problème. Parce que ça fait que ton bon gardien de but, il est rendu moins bon.
Il est moins efficace quand il est surutilisé. Les chiffres le prouvent.
Je comprends pas, moi, je comprends pas que ça soit là, encore là, cette situation-là.
Messieurs, pouvons-nous ajouter quelque chose à cet élan d'enthousiasme quand même mémorable de ce lundi 17 février? Sinon que de nous rappeler que le Canadien a subi un 20e revers à domicile samedi. 13 victoires à la maison. Pendant ce temps, le Rocket n'a remporté qu'un seul match à ses 10 derniers.
Ah, t'es mal commode.
Ma foi du bon Dieu. Non. Je fais juste constater. J'ai pas de mauvaises intentions. Vraiment pas. On veut que le club aille bien, mais oui, des fois, on devient cynique. On devient réaliste. T'sais, à un moment donné, on veut bien, regarder le verre à moitié plein, mais quand il n'y a plus d'eau dedans... Ça devient difficile,
ben
non? Aidez-moi quelqu'un!
Il y a un verre vide à côté d'un baba au rhum et
foie. Merci, les gars. Philippe Quentin, Jérémy Rainville, Alexandre Pratt, ici Mario Langlois, Maxime Paquette à la réalisation. Bonne semaine. On se retrouve vendredi pour notre prochaine sortie de zone. Ciao, tout le monde.